A3, c'est plus sympa. Format A3.
Format A3 se plonge dans l'histoire de l'horlogerie dans l'arc jurassien. Cinq siècles où les passionnés ont cherché à compter le temps et même à l'apprivoiser parfois, sans parler de l'ornement de ces montres et pendules qui en font des bijoux inestimables.
La montre la plus chère au monde, les horlogers passionnés, les montres qui ont fait le tour de la planète, même celle qui est allée sur la Lune, le patrimoine horloger suisse est riche de tout cela et même encore plus.
On vous présente ce matin un livre, Les Maîtres du Temps, l'aventure horlogère de Genève à Bâle. Ça vient de paraître aux éditions Cabedita et son auteur, Jean-Robert Probst, est avec nous ce matin. Bonjour.
Bonjour.
130 pages pour parler d'une histoire aussi passionnante, aussi dense. J'imagine qu'il a fallu faire des choix assez drastiques.
Oui, en fait, c'est un grand résumé. C'est surtout une invitation au public d'aller découvrir dans certains lieux, dans certains musées et parmi certaines personnalités, l'horlogerie dans sa finesse. Là, c'est simplement une balade de Genève à Bâle, qui raconte l'horlogerie.
Alors, de Genève à Bâle, en passant par la vallée de Joux, le Val de Travers, Saint-Imier et le Jura, entre autres, est-ce que l'approche de l'horlogerie est différente d'un coin à l'autre ?
Un tout petit peu, parce qu'à Genève, par exemple, elle est née à Genève, certainement par la faute de Calvin, puisque Calvin a interdit les bijoux et toutes ces pièces de richesse lorsqu'il est arrivé et qu'il a pris le pouvoir en 1541. Et tous les bijoutiers, les orfèvres, tous ces gens-là, étaient évidemment forcé au chômage. Et alors, pour contourner un tout petit peu l'édit de Calvin, ils sont mis à créer des montres d'une très grande richesse qui passaient pour des objets utiles et non plus pour des bijoux. Et c'est un petit peu là qu'est né le début de l'horlogerie. Puis après, évidemment, il y a eu tous les grands problèmes, je dirais, politiques, comme la nuit de la Saint-Barthélemy à Paris, et puis après la révocation de l'édit de Nantes, qui ont fait que tous les Huguenots de France, enfin une grande partie des Huguenots de France, sont venus se réfugier à Genève, qui était la Rome protestante. Et puis, parmi eux, il y avait des horlogers qui ont commencé à développer l'horlogerie. Ça, c'était du côté de Genève. Puis ensuite, ils sont partis du côté de la vallée de Joux parce qu'il y avait trop de monde à Genève. Et un peu dans le même temps, ou un petit peu plus tard, du côté des montagnes de Châteloise, il y a eu un certain Daniel Jean-Richard qui lui a créé en fait l'horlogerie de Châteloise.
Et puis vous nous amenez également avec cette rencontre des cabotiniers, par exemple Bruno Pezenti.
Des cabinotiers.
Cabinotiers, ah
oui,
bah
non, parce qu'ils travaillaient
dans le bon ordre.
Parce que ces gens-là travaillaient dans ce qu'on appelait les cabinets d'horlogerie, qui étaient sous les toits des maisons, là où la lumière est la plus intense. Et puis ils étaient sur des petits établis, et ils étaient surtout dans le quartier de Saint-Gervais. À Genève, le quartier de Saint-Gervais, c'est le quartier qui est juste en dessous de la gare, entre la gare, si vous voulez, et le pont du Mont-Blanc. Et là, ces gens se sont installés. Parmi eux, il y avait des gens célèbres. Il y avait, par exemple, toute la famille des Rousseau, hein, le père de Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau aurait dû devenir horloger aussi, puisque c'était une dynastie. Et puis, les événements ont fait qu'il a changé de direction. Mais en fait, tous ces gens-là, ces cabinotiers, étaient installés à Genève, sous les toits.
Alors, les maîtres du temps, c'est finalement un voyage, et ça mélange le livre de voyage et le livre d'histoire, finalement. Est-ce qu'on peut dire les choses comme ça?
Absolument, oui, oui, tout à fait. Ça raconte l'histoire de l'horlogerie. Il y a des rencontres avec des personnalités, évidemment des personnalités passées, hein, comme on citait Daniel Jean-Richard, Pierre Jacques Hédreau, toutes ces grandes personnalités, Abraham-Louis Breguet, ces grandes personnalités qui ont créé, qui ont fait l'horlogerie, et puis des personnalités actuelles, comme Philippe Dufour, comme Bruno Pezenti, qui est le dernier cabinotier genevois, et tous ces gens-là que l'on découvre au fil des pages.
Alors, justement, on suit, hein, vous êtes le personnage que l'on suit, même dans les bistrots, parce que vous commencez par un bistrot qui s'appelle le Fil du Temps, hein, c'est Philippe Chevrier à Genève, mais on se rend compte que la restauration et l'horlogerie, il y a parfois des liens, ne serait-ce que par le fait que les horlogers, eh ben, s'ils ne rentraient pas à la maison, ils allaient manger au restaurant, mais il y a cette volonté aussi de nous transporter dans ce voyage.
Oui, bien sûr, parce que ça, c'est des étapes qui sont intéressantes. Par exemple, comme le fameux petit musée, je dirais, paysan horloger au Boëchet, le musée de Jacky et Pitot, où on commence par déguster un très bon menu à l'étage, avant de découvrir le petit musée qui a été aménagé dans la cave. Donc, c'est la restauration, finalement, elle est toujours assez proche, puisqu'il y a les restaurateurs de montres et d'horloges, et les restaurateurs qui nous servent à manger.
Et puis, dans votre livre, on va également croiser le chemin de la montre la plus chère du monde. Elle coûte combien, cette montre la plus chère du monde? Elle est où? Qui est-ce qui la porte à son poignet?
Alors, on ne sait pas exactement, parce qu'évidemment, les gens qui ont acheté cette montre sont restés, je dirais, anonymes. C'était une montre qui était créée par Patek Philippe, la grande marque genevoise, en 1931 pour un banquier new-yorkais, Henry Graves. Et cette montre, elle a eu son histoire, elle a passé les années, les décennies. Elle était vendue en 2014, lors d'une vente aux enchères, elle était vendue 24 millions de dollars.
Une paille.
Il faut avoir les moyens.
Et puis il y a parmi toutes ces montres la plus complexe, hein, avec 33 fonctions, un calendrier perpétuel jusqu'en 2100. C'est vrai qu'on est dans le monde de la mécanique, de la minutie. Est-ce qu'on a l'impression d'être dans un monde un petit peu décalé par rapport à aujourd'hui, lorsqu'on est au cœur de l'horlogerie?
Oui, parce que finalement, on sait bien qu'aujourd'hui, les montres, on n'en a plus besoin quasiment. Hein. On a les smartphones qui nous donnent l'heure. On a dans toutes les gares, dans tous les lieux de Suisse, on a à peu près l'heure. Donc on n'a plus besoin vraiment d'avoir une heure exacte au poignet. Simplement, la montre maintenant est devenue ou un objet, je dirais, de collection ou de luxe pour certaines montres, ou alors, avec la nouveauté, les montres connectées, qui devient un objet qui dépasse nettement la montre, qui en plus de la montre, vous donne une quantité de possibilités, et puis aussi vous permet de payer vos factures. Simplement.